les plus toutes celles de France. Imagine le nombre de déchets qui déborde à outrance. Des millions d'années sont déjà condamnées à digérer l'intensité de ces produits dissimulés sous terre. Ils persistent, continuent de polluer et la machine n'arrête pas, ils ne cessent de proliférer. À venir condamné pour nos générations futures, ils seront bientôt prêts à vivre sur un tas d'ordures.
Le week-end dernier, le collectif L'Île Radiée, qui lutte contre le nucléaire et en particulier contre le projet de poubelle radioactive à Bure dans la Meuse, donc ce collectif organisait 3 jours de rencontres, de discussions sur l'atome et ses déchets. On vous propose d'écouter un entretien avec l'un des invités de cette série d'événements.
Bonjour, moi c'est Pivoine.
Tu es un hibou alors?
Un hibou, ouais, on est un peu tous des hiboux quoi.
Tu fais partie de ces gens qui se battent contre ce projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. Comment toi, tu as rejoint finalement ce combat écolo?
Il n'est pas que écolo, enfin, c'est une partie de la lutte, mais j'ai l'impression que là-bas il y a aussi plein d'autres choses qui nous portent. Et je suis arrivé là-bas il y a, je pense, 5 ans maintenant. À l'époque, je pense que ça devait être le débat public. En 2013, et il y a eu pas mal de choses intéressantes, des belles rencontres, et j'ai l'impression que c'était déjà un début de renouveau de la lutte, quoi, parce que c'est une paire d'années où c'était assez calme là-bas. T'avais juste la Maison de la Résistance qui a mené déjà des trucs assez chouettes sur... La Maison de la Résistance, c'est un lieu à Bure qui était acheté il y a 13 ans maintenant, 14 ans, par plusieurs personnes. Et qui sert de lieu d'accueil à l'opposition sur place, quoi. Du coup, il y a celui-là qui m'a permis de passer du temps là-bas. Il y avait quelques personnes à ce moment-là. Et puis, au fur et à mesure du temps, ça te plaît, t'y passes. Et puis maintenant, moi, j'ai acheté une maison à 2 villages de Bure. Et j'habite là-bas. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une multitude de choses qui m'ont fait rester là-bas. En tout cas, le côté anti-nucléaire, la lutte écologique, ça donne du sens. Mais aussi de manière plus large, j'ai l'impression que c'est une possibilité de vivre autrement, de concevoir des relations sociales autres avec les personnes. Et du coup, j'ai l'impression que construire cette alternative au nucléaire, c'est aussi réinventer des formes de vie, et que là-bas c'était possible, quoi. Du coup, je sais pas, cette lutte, elle est aussi anticapitaliste, elle fait attention aux dominations. On essaie de faire attention aux rapports de classe. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a tout ça aussi qui sont sur place, quoi.
On va se concentrer un peu sur l'objet quand même de cette lutte, ce projet d'enfouissement de déchets nucléaires. Si on prend les arguments des pro-nucléaires, c'est finalement la moins mauvaise des solutions, ce projet CIGEO. Comment vous voyez ça, vous?
Ben, moi, je pense que j'ai l'impression qu'il faut arrêter d'en produire. Déjà, en fait, c'est les déchets nucléaires, c'est pas, c'est de la merde. Enfin, qu'on se le dise, tu vois, c'est dangereux, on sait pas quoi en faire. Sauf que du coup, j'ai l'impression que la première des choses et la première attitude à avoir qui serait chouette par rapport à ça, c'est d'arrêter d'en produire. Enfin, à quoi ça sert de continuer cette production alors qu'on sait pas quoi en faire? Après, la moins mauvaise des solutions, moi, je sais pas, en fait. Je suis pas expert, je veux pas l'être, je suis pas payé par l'industrie pour trouver des solutions, en fait, tu vois. Et j'ai l'impression que ces déchets, avant de se poser la question, on arrête d'en faire et après on verra, quoi. Parce que là, pour le moment, c'est un débat qui est biaisé. En fait, c'est l'État qui est producteur de déchets, qui, par la branche de l'État, enfin, qui est l'ANDRA, qui est aussi une filiale de l'État, doit gérer ses propres déchets. Enfin, à un moment, ça ne marche pas, tu vois. Enfin, il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas de vraie recherche alternative. Après, est-ce que c'est à nous de le faire là, maintenant? Je pense pas. En tout cas, moi, je n'ai pas envie d'être une alternative ou une force de réflexion qui sera au travail de, enfin, pour faire le travail de l'ANDRA ou de l'État, quoi. Du coup, pas d'alternative. Mais la question, elle est pas grave en soi, de trouver une solution pas à ces déchets, quoi. Peut-être que se dire qu'on a le temps, que c'est des déchets qui ont des durées de vie énormes Et je reviens encore sur le truc de on arrête d'en faire, après on verra.
Alors toi, t'es arrivé au moment d'un débat public, les gens qui luttent contre ce projet en sont revenus de ces débats publics, ils ont perdu espoir en ce genre de discussion, de dialogue institutionnel.
Oui, j'ai peut-être pas être... Enfin, quand je suis arrivé, c'était le moment où ils voulaient... l'ANDRA et l'État voulaient faire le débat public. Moi, je trouve que c'était intéressant où, en fait, la posture, quand je suis arrivé des associations, des gens sur place, des individus, c'était on bloque le débat public. Donc, en fait, je ne suis pas arrivé pour le débat public. Enfin, j'ai participé au blocage du débat public qui, en fait, paraissait pertinent parce qu'en fait, on te demande juste la couleur du portail d'entrée. Enfin, tu vois, c'est un détail. En fait, il n'y a aucune volonté de débat politique de la part de l'État à ce moment-là, quoi. En fait, ils ont ce projet, ils veulent l'installer. En fait, l'État, il est là, il te l'impose le truc. Et après, le débat, c'est une mascarade démocratique. Tu vois, c'est le petit coup de vernis que tu vas mettre par-dessus, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a déjà... Enfin, là, en 2013, le consensus de blocage du débat public était déjà acté par la plupart de l'opposition. En tout cas, c'était suivi très, très fortement. Et ils ont fait deux réunions publiques et ils en avaient prévu une quinzaine, je crois. Et au bout de la deuxième, ils ont arrêté de les faire, quoi. Parce que t'as tout le monde qui est arrivé, les gens, ils ont fait du bruit. L'association des élus a déposé la pétition qui avait été faite, qui représentait, je crois, 60 000 signatures pour le département de la Meuse et Haute-Loire. C'est énorme, quoi. Et à partir de là, il y a eu un bruit qui a été ininterrompu. Et c'est la fin du débat public qui n'a jamais commencé, quoi. Et du coup, les deux séances ont été stoppées par les opposants. Et à partir de là, ils ont voulu faire une consultation par Internet, ce genre de choses. Enfin, totalement délocalisé, ou en tout cas virtualisé un débat public. Ça, apparemment, c'était suffisant pour la Commission nationale pour dire que le débat a été fait. Ils se sont arrêtés là-dessus.
Du coup, les opposants ont opté pour d'autres modes d'action. On peut dire des modes d'action plus radicaux. Où on est cette lutte finalement aujourd'hui? On sait que donc au printemps dernier, il y a eu une petite ZAD qui a été expulsée. Comment ça se poursuit maintenant?
Ça s'est jamais appelé une ZAD. Enfin. Sans vouloir dénigrer les ZAD ou quoi, enfin Notre-Dame c'est un super endroit. Je pense qu'à Sbure ça se voulait une occupation. Je pense qu'on peut parler de modes d'action différentes. Il y a une occupation, il y avait des revendications fortes. Après des modes de lutte plus radicaux, quand tu regardes l'histoire de la lutte antinucléaire en France, ou même plus particulièrement celle des déchets, j'ai l'impression que des méthodes d'action qu'on peut appeler radicales ont toujours fait partie de la lutte. Et en tout cas, elles sont un élément de la lutte indispensable, quoi. Parce qu'il faut créer un rapport de force. Et sans ce rapport de force, en fait, l'État, il t'écoute pas. Si actuellement, le projet CIGEO, il se fait en Meuse, c'est parce que dans les années 90, quand ils ont voulu s'implanter dans d'autres départements, la population a très directement, très rapidement répondu par des actions fortes, qu'on peut appeler radicales, je pense. Ou une opposition physique, des blocages, du sabotage, des emmurages, du goudronnage. Enfin, il y a eu une multitude d'actions qui ont été faites. Et en fait, l'État s'est rétracté sur ces territoires-là. Et après, a été plus malin à réfléchir à ce qu'on peut appeler un achat des consciences, une acceptabilité sociale. Donc ils sont arrivés avec un projet de laboratoire, sans parler d'enfouissement. Ils ont implanté le laboratoire. Les gens ont été assez dupes par rapport à ça, j'ai l'impression. Mais après, c'est pas leur faute non plus. Je pense que l'État a servi un argumentaire en béton, avec du fric, avec des promesses d'embauche. Les personnes sont tombées dedans peut-être facilement. Enfin, j'ai pas envie de juger quoi que ce soit. Et après, là, l'État dit, bah, regardez, maintenant on a un laboratoire, on a étudié, on s'est implanté dans le territoire. On peut installer sans problème le projet CIGEO. Et j'ai l'impression que, en tout cas, le projet CIGEO, c'est pas le laboratoire, et que ils ont voulu essayer d'avancer, notamment le défrichage du bois le jus, donc ce que tu parlais là où il y a eu l'occupation, qui en fait immédiatement, 2 jours et demi après le début des petits travaux, il y a des personnes qui ont vu ça, il y a une réaction immédiate, il y a une occupation qui dure 3 semaines, qui se fait virer. Il y a de nouveau une réoccupation massive qui a duré presque 2 ans renouveau une expulsion massive. Enfin, j'ai l'impression que il y a un peu ce jeu de rapport de force qui est permanent et là qui est pas terminé.
J'ai mis le nez à ma fenêtre ce matin. J'ai mis le nez à ma fenêtre ce matin. Bah, y avait une centrale nucléaire dans mon jardin. Bah, c'est vrai, ça, y avait une centrale nucléaire dans mon jardin. J'ai dit, oula, oula, qu'est-ce que c'est que ce machin? J'ai dit, oula, oula, qu'est-ce que c'est ce machin? Vous auriez pu essayer de le mettre un peu plus loin. Ah bah c'est vrai ça, vous auriez pu essayer de le mettre un peu plus loin. Le flic m'a dit, mon vieux, c'est là qu'on en a besoin. Alors moi j'ai dit, mais pourquoi qu'on en a besoin? Le flic m'a dit, mon vieux, c'est pour faire marcher les machins. Alors j'ai dit, mais pourquoi qu'on fait marcher tous ces machins? Le flic m'a dit, mon vieux, c'est pour pas les avoir achetés pour rien. Alors je dis, mais pourquoi qu'on achète tous ces machins? Le flic il m'a dit, mon vieux, c'est pour pas les avoir fabriqués pour rien. Alors j'ai dit, mais alors pourquoi, mais pourquoi qu'on les fabrique tous ces machins? Le flic m'a dit, mon vieux, faut arrêter de faire le malin. Le flic m'a dit, mon vieux, vous commencez à me casser les machins. Vous commencez aussi à être un peu subversin. Et si je veux, moi, quand je veux, je vous fais coffrer chez les zinzins.
On est toujours en compagnie de Pivoine, opposant au projet Cigéo à Bure. Dans le cadre de ce combat, il a été mis en examen pour, je cite, « association de malfaiteurs », officiellement interdit de Meuse. Il nous parle de la répression qui sévit actuellement là-bas.
Il y a une répression en ce moment qui est forte. Je pense qu'il y a une réponse à la lutte qui a été menée ces dernières années, qui a été très forte. J'ai l'impression que c'est l'État qui sort le grand jeu. Et en tout cas, moi j'ai l'impression que c'est une réponse, certes qui fait mal, mais qui, pour voir les bons côtés des choses, je serais tenté de dire qu'on est pris au sérieux. Tu vois, il y a la judiciarisation énorme de plein de choses. Tu fais un petit truc, tu passes, t'as un procès. Pour une broutille, tu vas être interdit de territoire. Tu vas avoir des amendes conséquentes, tu vas prendre tout ça. Je pense que ça montre une certaine impuissance de la part de l'État et une peur. Du coup, oui, cette répression, elle est dure, mais j'ai l'impression que c'est aussi une conséquence de nos luttes qui ont été victorieuses ces derniers mois, quoi. Là où on en est aujourd'hui, réfléchir à d'autres formes de lutte. Les personnes qui, là, ont pu être cibles de différents problèmes juridiques, elles cherchent de la lutte autrement, quoi. Si tu peux pas être sur un département, tu fais des trucs dans l'autre. Si t'as pas le droit de voir d'autres personnes, tu vas voir d'autres amis. Si tu te prends des amendes, tu fais jouer un peu la solidarité. J'ai l'impression que à nous d'être forts et de trouver autre chose, quoi.
Peut-être un mot sur ta venue ici à Lille. Ça veut dire que aussi ce combat essaie de trouver des appuis ailleurs, bon, comme c'était déjà le cas, mais essaie de renforcer un petit peu ces appuis locaux un petit peu partout en France.
Ouais, j'ai l'impression que c'est renforcer les liens qui pouvaient déjà y avoir et un peu grandir les soutiens aussi, quoi. J'ai l'impression que là, l'État, de par sa répression, bloque totalement les possibilités d'action à Bure et nous montre, de par les différentes réponses qu'on est capable de mettre en place, qu'il faut une solidarité, qu'il faut créer aussi des comités de lutte à d'autres endroits. Je dirais pas simplement un comité de soutien, mais comité de lutte, quoi, de lutter là où tu es. Et du coup, si tu es à Lille, à Arras ou ailleurs, en fait, tu peux aussi t'organiser avec d'autres personnes et lutter et faire participer à ce rapport de force qu'on essaie d'instaurer pour faire quelque chose de conséquent, quoi. Du coup, là, ce week-end, il y a 3 jours qui a été organisé par le collectif Lille Irradiée, qui propose pas mal de choses assez chouettes. Et j'ai l'impression que c'est une étape, que là, ce week-end, il y a encore plus de gens qui vont être intéressés ou qui vont s'intéresser, qui vont avoir de l'information. Ça va refaire des liens et c'est un peu un effet boule de neige, quoi. Petit à petit, on essaie de se mobiliser par rapport à ça. Après, j'ai l'impression que Il y a déjà plein de personnes qui sont en lutte, on en a des luttes plein dans nos vies, que c'est déjà une lutte de vivre. Du coup, quelle place on peut donner à ça dans nos vies, je sais pas. En tout cas, pouvoir à certains moments ou ponctuellement se rassembler et faire une force, je trouve que c'est pertinent, quoi.
Où en est le projet CIGEO en lui-même? Est-ce que les travaux ont bientôt commencé? Comment tu vois ça? Est-ce que tu penses aussi, dans ton intime conviction, que ça va se faire ou ça va pas se faire? Parce que là, ça fait quand même plus de 20 ans qu'on en parle. Est-ce que ça va se faire, selon toi?
Non. Clairement, moi, je l'espère pas. En tout cas, je ferai tout ce qui est possible pour pas que ça se passe. J'ai l'impression que moi j'ai décidé là d'y mettre un bout de ma vie là-bas. En tout cas, je fais pas le pari que ça se fera. En tout cas, pour revenir sur là où en est le projet en ce moment, ils ont essayé de mettre un pas. Donc, il faut expliquer qu'en ce moment il y a un laboratoire qui existe, il y a une emprise où ils expérimentent. Donc, il y a déjà deux puits qui descendent à 500 mètres de profondeur. Des petits tests là-dedans, donc il y a déjà une emprise qui est relativement visible. Ils ont essayé là de s'attaquer à un autre endroit pour le jus, ils se sont fait tacler direct, même si c'était compliqué. Actuellement, il n'y a aucun travaux qui s'y passe, il n'y a pas de défrichement, c'est un truc, c'est un peu stand-by, statu quo. Bon, c'est quand même militairement surveillé, en fait, t'as les gendarmes mobiles en permanence qui surveillent cet endroit, mais il s'y passe aucune chose parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours ce possible rapport de force et cette mobilisation forte en réaction qui peut se faire. Du coup, en ce moment, ils essayent de faire des travaux préparatoires aux travaux préparatoires, quoi. Du coup, ils essaient d'avancer sur la ligne THT et le transformateur, mais ils avancent pas trop. Donc, je pense qu'au niveau des terrains, c'est toujours compliqué pour eux.
Au niveau des terrains, parce que les propriétaires bloquent, c'est ça?
Oui,
ou...
oui, il y a toujours des propriétaires qui bloquent. Donc, pour le moment, il n'y a aucune arrêté d'expulsion, enfin, il n'y a pas d'autorisation de création de CIGEO, par exemple. Du coup, c'est dire qu'ils ne peuvent pas virer les gens. Tu vois, à la ZAD, il y a eu la DAC, la déclaration de... Enfin, qui est un outil juridique, législatif, qui permet d'exproprier des personnes. Là, pour le moment, il n'y a pas cet outil. Du coup, c'est dire qu'il y a des négociations qui sont menées directement ou indirectement, souvent avec des pots de vin ou des arrangements, des échanges avec les différents propriétaires de terrain. Donc il y en a certains propriétaires qui sont résignés, qui ont pu lâcher leur terre, enfin, ou qui ont lâché leur terre, enfin, et il y en a non. Et tu as encore des personnes qui luttent, qui résistent à l'accaparement des terres. Du coup, là, par exemple, c'est pas réglé pour différents projets. Il y a des endroits où ils n'ont pas toutes les emprises qu'ils auraient besoin. Donc, l'endroit aussi a été très malin là-dessus. C'était une de leurs stratégies de négocier en amont avec plein de fric ces accaparements de terrain, quoi. Du coup, là, ils ont presque toute la voie ferrée qu'ils voudraient. Mais il y a encore certains morceaux, ils ne savent pas trop. Il y a notamment ce qu'on appelle le terrain de la gare, qui a un lieu qui appartient à la lutte, où il y a pas mal d'activités qui s'y passent. Et ce terrain, à la base, c'était dans le tracé de la voie ferroviaire. Donc là, ils se sont dit, bah, ça va être un peu compliqué, ce terrain, on ne l'aura jamais. Du coup, ils vont contourner sur les deux champs d'à côté. Mais cette solution, elle est encore difficilement imaginable. C'est-à-dire qu'ils vont faire des travaux à côté d'un terrain où nous, on a le droit de s'y installer et d'y faire des choses. Enfin, ça veut dire militariser une zone où, enfin, je ne sais pas comment ils peuvent faire ça, l'équivalent du Val de Souza, où tu as des grilles, des gens, un truc... Enfin, c'est difficile pour eux à réaliser pour le moment. Et puis j'ai l'impression que si nous, on est capable de mettre un rapport de force conséquent, ça rend aussi encore la situation compliquée, quoi. Donc là, en ce moment, ils font des travaux un peu plus loin sur la ligne où il y avait deux décharges municipales qui sont en train de vider. Donc c'est un peu conséquent parce qu'il y avait quand même plusieurs dizaines de tonnes ou centaines de tonnes de gravats et de déchets à enlever. Du coup, ils enlèvent ça. Puis ils disent, oh, regardez, on est quand même écolo parce qu'on trie en plus les déchets qu'on enlève. Enfin, c'est un peu... Mais ils avancent petit à petit sur des petits morceaux. Mais là, tu vois, c'est juste démonter, vider une décharge. C'est pas non plus faire les travaux en soi, quoi. Même si ça les avance d'une certaine manière, J'ai l'impression que c'est des tests qu'ils essaient de faire, quoi. C'est un picot, une picot tentative. Après, là, qu'est-ce qu'on est aussi capable de créer en opposition à ça? Je pense que c'est des intérêts. Enfin, la question, elle se pose là ce week-end quand on va avoir des discussions avec les gens qui se mobilisent sur place. Quel rapport de force on est capable de faire quand il y aura réellement un début de travaux, quoi. Donc pour le moment, c'est ménager nos énergies, réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et petit à petit créer un réseau suffisamment fort pour faire des choses chouettes, quoi. Et en plus, l'Andra, c'est l'État, c'est EDF. J'ai l'impression qu'ils sont implantés partout et que les décisions, même s'il y en a qui se prennent à Bure, bah, les décisions, elles se prennent aussi ailleurs, quoi. Du coup, rien n'est joué, quoi. Y a rien de joué.
J'ai vu une maison où ce qu'il y a rien qui était éteint. Même quelle heure là dans cette maison, c'était allumé dans tous les coins. Même quelle heure là, c'est vrai, y avait pas un seul coin qui était éteint. Alors j'ai regardé le numéro de la rue, et ben c'était le mien. Alors j'ai pensé à la facture du mois prochain. Mais là y a le flic qui m'a dit, mon vieux, faut pas t'en faire, on est voisins. C'est pas pour les prunes que la centrale est dans ton jardin. Alors je me suis dit, dans le fond, cette centrale, eh ben, elle est très bien. Y'a la calapin en verre avec un petit peu de lierre, on n'y verra plus rien.
Dernière partie de notre entretien avec Pivoine. Il fait partie de celles et ceux qui luttent à Bure contre le projet CIGEO, projet français de centre de stockage profond de déchets radioactifs.
Mon masque à gaz et puis mon casque en béton.
Au niveau des gens qui luttent sur place, on peut imaginer un mélange de gens, des gens qui sont là, quoi, des locaux qui étaient là quand le projet est arrivé, des habitants de Bure et des environs. Et puis aussi des gens qui sont arrivés, bah, comme toi finalement, je ne sais pas si tu es de la Meuse, de cet endroit-là en particulier, mais des gens qui sont arrivés pour ce combat, pour autre chose.
Oui, c'est assez multiforme. Et j'ai l'impression que c'est aussi une force de ce genre de lutte, enfin des territoires en lutte, c'est avant tout des femmes et des hommes qui habitent là. Et du coup, oui, moi je suis un néo-arrivant. Et d'un côté, j'ai l'impression qu'on a tous besoin les uns les autres, quoi. En tout cas, j'ai l'impression que pour les personnes qui étaient là avant que j'arrive, enfin mes voisins qui maintenant sont des amis, quoi. Eh ben, c'est le fait qu'il y ait des personnes qui arrivent, c'est redonner espoir, sortir de la résignation. Quand j'ai une amie là, elle me dit bah, ça se fera ou pas, bah, moi je suis convaincu que non, et en tout cas on est plein à vouloir mettre nos tripes dedans pour que ça se fasse pas. Elle dit ah ouais, c'est cool qu'il y a des gens qui pensent ça et qui le redisent, parce que nous ça fait 20 ans qu'on suit un peu ça. En fait, on commençait à baisser les bras, à se dire qu'en fait, on n'y arrivera pas. Et d'avoir ce renouveau des gens qui viennent s'installer en plus, parce qu'il y a des personnes qui décident de s'installer. Après, il y a aussi la possibilité à des gens de venir juste passer momentanément. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi qui fait la force, quoi. D'avoir des lieux qui permettent d'accueillir pour un jour, une nuit, une semaine ou plus longtemps, quoi. Et du coup, je trouve ça assez chouette, ces possibilités et ces liens qui peuvent se tisser. Je sais pas, moi j'ai une voisine, on joue au jeu de société ensemble, on va aux champignons, je sais pas, on se rend des coups de main. Et des personnes comme ça, il y en a pas mal, quoi. Après, c'est pas possible de le faire avec tout le monde, on veut peut-être pas. C'est pas très grave, tu vois, c'est comme en fait n'importe où, quoi. Tes voisins, t'en as avec qui tu t'entends bien, et puis t'en as avec qui c'est pas la peine, tu vois, du coup. Mais en tout cas, je trouve c'est un peu chouette, quoi, ces possibilités de recréer des choses, et en plus, en portant des positions politiques qui peuvent être radicales, tu vois. D'avoir des confrontations d'idées que les gens n'ont pas l'habitude d'avoir, quoi.
quand on a commencé l'interview, quand on a commencé à parler de la question des déchets nucléaires, tu m'as dit tout de suite, j'ai pas envie d'être un expert, mais quand même, quand on passe autant de temps à lutter contre un projet, on est obligé un peu de s'intéresser à des trucs techniques, à être vraiment sûr qu'on est complètement contre cette technologie et puis cette manière de se débarrasser des méfaits de cette technologie. Non ?
Je suis pas sûr. En fait, tu vois, t'es pas obligé d'avoir... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un piège qui peut être tendu par rapport à ça, de vouloir rentrer dans un discours scientifique ou autour de la technologie, où du coup, t'as besoin d'avoir un bagage scientifique, culturel, pour pouvoir donner ton avis. Moi, j'ai l'impression que c'est pas vrai, tu vois. En fait, il y a des trucs qui partent plutôt du cœur, tu vois. Enfin, il y a... Un recueil de textes qui avait été fait pas mal autour de lutte en Angleterre contre l'implantation d'une base de missiles, où il y avait une demande qui avait été faite à plein de lectrices d'envoyer des lettres pour parler de ce qu'ils ressentaient par rapport à ça. Et c'était hyper intéressant parce que du coup les gens ils partageaient leurs rêves, leurs cauchemars, l'angoisse que ça peut créer d'avoir ce désastre, cette possibilité de désastre nucléaire à côté de soi, de ce que ça peut représenter. Et j'ai l'impression qu'en fait là c'était Trip qui te parle, tu vois, et qu'en fait tu peux aussi très bien te confier à ça, et en fait dans plein de moments dans ta vie tu te confies à tes tripes et tu sais que ça a du sens, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il faut pas tomber dans ce piège de discours. D'un côté, c'est important qu'il y ait des personnes, ou en tout cas, c'est important d'avoir la possibilité de se renseigner si on a envie. Mais j'ai pas l'impression que ça soit indispensable, loin de là, pour se positionner par rapport à ça, quoi. En fait, t'as pas besoin d'être un expert en économie pour savoir que le capitalisme, ça pourrit nos vies et ça met des gens en exploitation, quoi. Enfin, l'expérience de notre propre vie souvent suffit à se rendre compte de ça, quoi. Je sais pas.
Pivoine, opposant au projet d'enfouissement de déchets radioactifs à Bure dans la Meuse, on l'a rencontré jeudi dernier dans un café lillois. Il était l'un des invités de ces trois jours de rencontres et de discussions sur le thème de l'atome et de ses déchets à l'initiative du collectif Lille Radiée.
Si vous trouvez qu'il y a un petit truc qui cloche dans ma chanson, y'avait qu'à, y'a qu'avait pas voté comme des cons.